Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous vous souvenez du concept?
Ah bah écoutez Stéphane, oui, après 343 numéros, je peux vous l'affirmer, chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on vous raconte l'histoire sans se la raconter, autour de trois personnages qui ont un point commun. Et aujourd'hui Stéphane, je touche du bois, cette table qui était là sans PVC, car nous sommes vendredi 13.
Oh my god.
Eh oui, et je savais que vous étiez superstitieux, mais pas autant que nos personnages du jour.
Ah ça non Mathieu, puisqu'aujourd'hui on réunit de super superstitieux. À commencer par Pablo Picasso, le peintre au style si particulier, reconnaissable entre mille, qui avait un attrait pour le sacré, les puissances insondables qui régissent l'homme et dont les superstitions l'ont poursuivi durant toute sa vie et dans sa mort aussi. Puis je vous raconte un autre génie, le compositeur et musicien Claude Debussy, qui avait lui aussi quelques manies, des superstitions qui ne l'ont pas empêché d'avancer, sauf si un chat noir se mettait en travers de sa route. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de celui qui fut capitaine emblématique de Chelsea, un footballeur aux mille gris-gris.
Oui Stéphane, on est tous un peu superstitieux. Vous par exemple, je sais qu'avant chaque gros prime sur France 2, vous sacrifiez un chat.
J'adore les ébouillantages.
Mais il y a encore plus superstitieux que vous Stéphane, il y a John Terry, légende du FC Chelsea, qui vous allez voir avait 2-3 rites assez étonnants avant et pendant le match.
Et avec nous comme chaque jour, ils sont nos gris-gris à nous. Quand on les touche, ils nous portent chance. Ce sont nos chroniqueurs. D'abord celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et là, vous venez tous les deux, là, Mathieu et Stéphane, de citer des chats noirs. Eh bien, moi, j'ai voulu aller voir pourquoi les chats noirs sont-ils censés porter malheur. L'autre jour, vous nous aviez fait une question de quiz là-dessus avec les chats qui ont quelques poils blancs.
Exactement,
et qui,
eux,
survivraient mystérieusement.
Vous avez enquêté?
Exactement.
Est-ce que je disais vrai dans le quiz?
Vous verrez.
Très bien. David est avec nous aussi. David Castello-Lopez, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous revenez aux origines d'une chose qui fait partie de notre quotidien.
Oui, enfin, et de plus en plus, et de façon de plus en plus organisée, c'est la GPA, la gestation pour autrui.
Stéphane m'a pas l'air prêt encore. Vous êtes prêt, Stéphane?
Non, mais c'est pas une femme, vous voyez.
Non, mais vous pouvez avoir des idées. vous positionnez politiquement. Pour ou contre la GPA? Non, vous prendrez non.
Non, je ne prends pas position.
D'accord, très bien, très bien.
Par contre, je me positionne clairement avec Olivier Pouls sur un plat dont j'ignore tout et je ne sais même pas le prononcer.
Ah bon?
Le fiadone, c'est ça?
Le fiadone,
ah, ouais. Non. Justement, les amis, le fiadone, on en a déjà parlé, c'est un gâteau corse. Moi, je vais vous parler des fiadoni, qui sont là, pour le coup, une spécialité italienne.
Ah, voilà, vous voyez, je savais bien qu'il y avait une embrouille.
Ils sont pratiquement des homonymes, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme des ravioles, voilà. Mais pas avec de la pâte, comme on fait pour les pâtes, mais plutôt une pâte type pâte à pain, pâte feuilletée, oui.
Et vous allez nous apprendre à faire ça? Parce que c'est compliqué à faire des ravioles.
Oui, non, mais c'est très facile, là, pour le coup. Et avec une farce délicieuse, je vous raconterai tout.
Une farce délicieuse, c'est comme ça aussi que je vois le quiz. Bern to be alive chaque jour. Clémentine face à Stéphane Bern. Qui est le meilleur? Vous le saurez tout à l'heure. Mais d'abord, découvrons notre premier superstitieux du jour par celui qui le connaît bien.
Moi, je l'ai connu. Oui. Il m'a fait un dessin, je crois. Je sais pas où il est.
Stéphane Bern nous raconte son ami, Pablo Picasso.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il a eu sa période bleue, sa période rose, il a peint avec toutes les couleurs qui existaient, mais pour les chats, même celui qui saisit un oiseau comme il l'a représenté, le noir ne devait pas être celui qu'il préférait croiser. Stéphane Bern touche du bois et nous raconte le superstitieux Pablo Picasso.
En ce printemps 1907, Pablo Picasso est un jeune artiste sans le sou de 26 ans qui profite d'un après-midi pour quitter son atelier de la Butte Montmartre et se rendre dans les beaux quartiers de Paris. Sur les conseils de son ami André Derain, peintre comme lui, Picasso va visiter pour la première fois le musée ethnographique du Trocadéro, antre poussiéreuse qui renferme une surprenante collection de ce que nous appelons aujourd'hui les arts premiers. Dans une semi-obscurité, Picasso pénètre dans un capharnaüm crasseux d'où surgissent masques, statuettes et figurines venues de lointaines contrées. Des présences envoûtantes qui suscitent ce que le peintre décrit comme l'une de ses plus grandes émotions artistiques. Il est littéralement subjugué par ce qu'il découvre, ce que l'imagination humaine a produit de plus puissant et de plus beau. Rien moins que cela, à en croire ce qu'il a relaté par écrit à son ami Guillaume Apollinaire. Pablo Picasso comprend ce jour-là le véritable sens de l'art. Cela tombe bien car voilà quelques mois déjà qu'il travaille sur une toile qui deviendra l'une de ses plus célèbres. Les Demoiselles d'Avignon, des femmes au corps et au visage scandaleusement défigurés. Un prélude à la révolution cubiste dont Picasso est, avec Georges Braque, l'un des plus éminents représentants et qui proposera, dans les années suivantes, un éclatement total des formes, un nouveau rapport à la réalité et à la représentation. Les influences des arts premiers sur ce mouvement révolutionnaire ont été largement discutées par les spécialistes, mais au-delà des lignes angulaires caractéristiques, la découverte de l'art africain constitue pour Picasso une épiphanie qui va bien plus loin qu'une réflexion formelle ou stylistique. Il a compris, selon ses mots, que la peinture n'est pas un processus esthétique, mais une forme de magie, une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à vos terreurs et vos désirs. Nous touchons là à un aspect parfois oublié de la personnalité du plus célèbre des peintres du XXe siècle, celui d'un attrait pour le sacré, pour les forces transcendantes, pour les puissances insondables qui régissent l'homme, les esprits et la nature, et que Picasso s'est évertué à saisir et à traduire dans son art. Une sensibilité qui s'illustre dans son travail autant que dans ses nombreuses superstitions. Sa compagne, Françoise Gillot, raconte en effet comment, avant d'entamer un voyage, il fallait passer 2 minutes en silence dans une pièce close afin de pouvoir partir sous les meilleurs auspices. Pablo Picasso n'aurait jamais jeté un chapeau sur un lit ou posé le pain à l'envers sur une table. Françoise témoigne aussi d'une ritualisation des moments du quotidien, d'une litanie d'habitudes qui semble indispensable pour rassurer l'artiste. Si Picasso est superstitieux, il n'est pas spécialement religieux, si ce n'est par tradition, lui qui a grandi dans la très catholique Espagne. Enfance durant laquelle il s'est certainement nourri de ces ambiances toutes ibériques. Celle des processions et dévotions de la Semaine Sainte à Malaga, ville où il est né, en 1881. Celle des églises ou celle du monde de la tauromachie, lui aussi pétri de cérémoniels et de croyances aux mauvais présages. Installé définitivement à Paris à partir de 1904, Picasso baigne un temps dans l'ésotérisme et l'occultisme en vogue à l'époque et dont certains de ses amis sont adeptes. Il a d'ailleurs lui-même participé à quelques séances pour faire tourner les tables, mais s'il se plaît parfois à convoquer les esprits, Picasso se consacre plutôt à leur donner forme dans son art, à la manière des figurines votives exposées au musée du Trocadéro. Toute sa vie, Picasso collectionna les masques et sculptures d'Afrique et d'Océanie, non dans une démarche ethnographique, mais dans un rapport passionné et quasi mystique aux objets. Il prend soin de ne jamais enlever la paille, la terre ou parfois les fluides organiques qui recouvrent les fétiches africains, car ce sont justement ces matériaux qui leur insufflent de la magie. À l'image de certaines de ses propres œuvres, dans lesquelles les objets du quotidien, bouts de tissu, clous, branches ou papier, se mêlent à la peinture, comme pour y injecter du sens. La nature n'est traduisible en peinture que par des signes, affirme-t-il. Picasso préfère montrer comment et par quoi se manifestent les choses plutôt que les choses elles-mêmes. Pour lui, les objets sont chargés de sens et de pouvoir. C'est sûrement pour cette raison qu'il prend l'habitude de les accumuler. Pablo Picasso a en effet tendance à tout garder, de la facture du restaurant à un bout de terre cuite trouvé dans une décharge, des lettres auxquelles il ne répond pas, aux vêtements usagés dont il ne parvient pas à se séparer, car trop imprégné de lui-même. Il fétichise même son propre corps, ou du moins des parties. Ainsi garde-t-il ses rognures d'ongles pour les envoyer à la femme qu'il aime. Il ritualise également à l'excès toute coupe de cheveux. Les ciseaux ne peuvent être maniés que par lui ou les femmes qui partagent sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre en 1947 un coiffeur espagnol, seul autorisé à prendre soin de ce qui lui reste de chevelure. Ses œuvres se joignent aux objets du quotidien qui s'amoncellent dans ses diverses demeures pour participer à l'élaboration d'un tout. Chaque tableau est une fiole pleine de mon sang, raconte-t-il à qui veut l'entendre, et même le comprendre. Car Picasso ne peint pas le monde comme il le voit, mais bien comme il le pense. Et chaque œuvre est dans ce sens autobiographique, chargée d'une partie de lui-même. Raison pour laquelle il rechigne parfois à s'en séparer, sélectionnant avec la plus grande attention celles qui partiront chez son galeriste. Mais les superstitions de Picasso, sa sensibilité à la charge symbolique et presque magique des objets comme de ses œuvres, témoignent aussi de la façon dont l'art lui permet de conjurer sa peur ultime, celle de la mort. Picasso semble en effet avoir toujours été profondément inquiet face à sa propre fin, ne cessant de vouloir la repousser. Il a d'ailleurs plutôt réussi en atteignant l'âge honorable de 91 ans. Il était tellement superstitieux qu'il ne s'est même pas rendu en 1954 à l'enterrement du peintre Henri Matisse, à la fois ami et meilleur rival qu'il connaissait depuis si longtemps. Oui, pour le génie, la mort appelle la mort. Picasso a toujours refusé de rédiger un testament par crainte de précipiter sa disparition. Ce qui n'a pas manqué d'engendrer un long combat judiciaire entre ses héritiers et lui a, dans un sens, permis de régner sur son entourage, même après son décès. Lui qui fut souvent décrit aussi charmant avec les inconnus que dur et impitoyable avec une partie de sa famille. Et cette peur profonde de la mort ne serait-elle pas aussi l'une des causes d'une œuvre si prodigieusement féconde, estimée à un total de 70 000 pièces, entre peintures, dessins, sculptures, céramiques, estampes ou tapisseries? Car Picasso n'a jamais fait autre chose que de produire, fabriquer, créer, comme pour remplir et allonger une existence entièrement vouée à sa pratique artistique. Il avait une conscience particulière de la force de son œuvre, non pas seulement dans les révolutions artistiques qu'elle a pu engendrer, mais en posant un regard synchronique, libéré de la linéarité du temps, sur ce tout au milieu duquel il vit et qu'il laisse comme un ensemble à la postérité. Si les grandes phases sont bien entendu identifiables dans son travail, les périodes bleues et roses, le cubisme, l'influence du surréalisme ou l'époque de l'obsession de la figure du Minotaure, Picasso pouvait, au sein d'une décennie, d'une année ou même d'une semaine, passer d'un style à l'autre, user des formes éclatées ou à l'inverse de compositions beaucoup plus figuratives et ordonnées. Il naviguait dans un mouvement perpétuel au sein de sa propre œuvre. Étrangement, pourrait-on penser, alors qu'il était si curieux de nouvelles formes et matières, Picasso semblait relativement hermétique aux évolutions artistiques des années 50 et 60, lui qui fut en 1971 exposé au Louvre de son vivant, une première, lui qui était devenu un demi-dieu de la modernité que sa dernière épouse Jacqueline appelait « Monseigneur ». L'artiste, qui vouait un culte aux objets, est devenu objet de culte de par sa personnalité, mais surtout grâce à la puissance de son œuvre dont l'aura emplit désormais les musées du monde entier.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Pablo Picasso, nous sommes Stéphane avec un duo qui nous raconte le sorcier qu'il était. Bonjour Diana Wittmeyer-Ruiz Picasso.
Bonjour.
Et bonjour Philippe Charrier.
Bonjour.
Bonjour Diana Wittmeyer-Ruiz Picasso, vous êtes historienne de l'art, petite fille de Pablo Picasso. Philippe Charrier, bonjour. Vous êtes le médecin légiste anthropologue.
De Picasso?
Non, oui. Qu'on connaît bien, parce qu'on l'a reçu souvent dans notre émission. Vous dirigez le département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly, musée Jacques Chirac. Ensemble, vous co-signez l'ouvrage Picasso sorcier qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et dans ce livre, vous racontez que les superstitions les plus anodines, comme croiser un chat noir ou placer son pain à l'envers sur la table, terrorisaient littéralement Picasso. Et dans son travail, Diana Wittmeyer-Ruiz Picasso, est-ce que Picasso met en place des rituels incontournables à l'image d'un sorcier qui invoquerait sa puissance créatrice?
Alors évidemment, Picasso est d'origine andalouse et même italienne de par sa mère, qui lui a probablement transmis ce penchant mystique. Elle qui dormait souvent avec des ciseaux ouverts sous son oreiller de façon à couper les mauvais rêves. Dans son travail, on sait qu'il travaillait principalement la nuit. Il aimait travailler dans le calme et personne n'avait droit d'entrer dans son atelier, si ce n'est parfois ma mère, Maya.
Votre livre s'ouvre ainsi. Picasso ne jette rien, il garde tout, de la poussière à la note du tailleur en passant par les lettres des femmes qui ont partagé sa vie. Philippe Charlier, on peut dire que Picasso a frôlé le syndrome de Diogène, cette volonté de tout conserver, c'est presque pathologique?
Alors, à notre sens, ça n'est pas pathologique. Dans le syndrome de Diogène, en effet, c'est une accumulation de tous les objets du quotidien et on finit par mourir étouffé dans son appartement ou sa maison par cette accumulation.
Ah oui, ça va loin.
Et ça va très très loin, mais c'est un vrai syndrome médical. Non, Picasso est plus un alchimiste qui considère que tout ce qu'il a touché, tout ce qui est à son propre contact physique devient littéralement sacré. Il laisse une partie de lui-même dans tous ces petits objets du quotidien et pour lui, tout est magique dans le sens où quand il se promène sur les chemins ou par les grèves, eh bien, il a toujours une petite céramique, un petit clou, une petite feuille qui lui rappelle quelque chose, qui le stimule et ce sont des objets qui vont sans arrêt le pousser à la création, lui rappeler des souvenirs et aussi l'aider à lutter contre les influences néfastes.
Moi, ce qui me fascine le plus, c'est tout ce qui était les matières organiques qui encadrait, c'est
et qu'il utilise dans son œuvre aussi.
Oui.
C'est vraiment pour lui une façon d'intégrer en fait ces personnes, que ça soit avec du sang, parfois même des matières fécales, la couche de sa fille, qu'il va utiliser dans ses peintures comme s'il emprisonnait le terme n'est pas forcément négatif, bien sûr, emprisonnait une partie de la force vitale de ces êtres qui comptent beaucoup pour lui dans leur peinture. Mais c'est aussi, si on applique un schéma anthropologique tel que celui du musée du Quai Branly, il active en fait ses peintures, ses sculptures, par ses liquides biologiques. Même quand il utilise sa propre urine pour patiner un buste en bronze parce qu'il trouve que la couleur est pas terrible, ben certes, c'est une matière première facile à retrouver, plusieurs litres par jour par personne, donc c'est pas compliqué, mais c'est la sienne, c'est pas celle de n'importe qui. Oui. Donc il marque son territoire littéralement et aussi il laisse une petite partie de lui-même dans ses œuvres. C'est quasiment une filiation génétique et magique en plus.
Pardon Philippe-Henri, mais est-ce que ce dont on parle, c'est quelque chose qui est propre à Picasso à cette époque, ou est-ce qu'autour de lui, il y a d'autres artistes qui utilisent des matières organiques? Par exemple, c'est quelque chose qui se fait,
c'est un secret bien gardé des fondeurs, comme quoi l'urine peut apporter
il le savait, et il s'est dit, je vais le faire.
Vous allez pouvoir le faire maintenant.
Le secret est
vanté.
On a des bronzes à la maison, si vous voulez.
Mais ça, c'est juste pour l'urine. Tout le reste, en revanche, l'usage du sang, l'usage des excréments, etc., les ongles, les cheveux, ça, c'est vraiment quelque chose qui semble être propre à lui.
Oui.
Dans le livre que vous co-signez, qui s'intitule Picasso sorcier, vous nous apprenez, on l'a dit, que Picasso conservait aussi des mèches de cheveux, des ongles coupés ou des morceaux de peau. Philippe Charry, qu'est-ce que les analyses scientifiques menées sur ces reliques nous révèlent des habitudes de Picasso?
Et bien là, vous voyez, on fait exactement de la médecine légale. On utilise en fait ces cheveux, ces poils pour reconstituer la vie quotidienne de cet individu. Et on se rend compte que sous les ongles, par exemple, d'abord on a des petites fractures au niveau de l'extrémité des ongles, ce qui montre qu'il utilisait ses ongles pour la céramique, pour faire des fissures dans la toile de ses peintures, etc. Donc il utilise ça vraiment comme un prolongement de son pinceau et de sa palette. En plus, sous l'ongle, on a réalisé des études toxicologiques et protéomiques. On identifie tout simplement les protéines qui constituent tout ce avec quoi il a été en contact, et on retrouve du ripolin, c'est-à-dire des éléments de la peinture vraiment à bas prix qu'il utilise dans le quotidien, des petits fragments aussi du jardinage qu'il a réalisé avant, ou même du melon qu'il a découpé sur la table. Donc on rentre dans sa vie quotidienne stricto sensu. Et puis dans ses cheveux, comme sur une scène de crime, on peut étudier un de ses cheveux en longueur. Un centimètre correspond à un mois de prise de toxique éventuelle. Alors on n'a pas retrouvé des toxiques, Picasso n'était pas camé. Je vous calme tout de suite. Non, on retrouve beaucoup de tabac, un petit peu de café, et puis pour le reste, simplement des polluants qu'on peut presque dire de nature industrielle. Ce sont toutes ces peintures qui n'étaient pas forcément aux normes, qu'il utilisait au quotidien et qui l'ont intoxiqué au fur et à mesure de sa vie.
Bien sûr, le saturnisme venait parce que les peintres à l'époque utilisaient beaucoup de peinture en plomb. Picasso croit en la force des objets et il pense aussi à l'usage détourné que pourraient faire des personnes mal intentionnées de certaines parties du corps, ses cheveux par exemple. Et donc, Diana Eski, vous croyez qu'il avait peur de la magie noire?
Effectivement, il pensait que chaque chose, animée ou non animée, était dotée d'une puissance vitale magique. C'est ce qui l'a amené à conserver à la fois ses cheveux et ses ongles, de peur que quelqu'un s'en saisisse et n'exerce sur lui une sorte de magie noire. Donc il les brûlait, il s'en séparait d'une façon mystérieuse, ou il les donnait à une personne de confiance qui se trouve avoir été la Marie-Thérèse Walter, donc ma grand-mère, qui elle-même l'a transmise à ma mère et que j'ai pu découvrir tout récemment lors de l'exposition Picasso Maya qui est actuellement au musée Picasso.
Pardon, j'ai une petite question là-dessus. Est-ce que vous pensez que votre grand-père, il aurait été comme ça s'il n'avait pas connu la notoriété qu'il a connue, la célébrité mondiale, ou c'était juste en lui, en fait, s'il avait été peintre en bâtiment, par exemple, est-ce qu'il aurait été aussi comme ça fétichiste?
Oui, bien sûr, c'était en lui. C'est pour ça qu'on rappelle ces traditions andalouses, ces traditions de tauromachie, ces traditions qui sont propres à sa famille, en fait.
Philippe, dans quelle partie du monde ce type de croyance est-il encore répandu? On pense évidemment à Haïti, où l'usage des poupées vaudou, par exemple, ça subsiste encore.
Oui, exactement, dans le monde qu'on appelle afro-caribéen, donc les Grandes Antilles, et puis également au sud du Sahara, ce sont des pratiques qu'on retrouve très fréquemment. Quand on se coupe les ongles, quand on va chez le coiffeur, on repart avec les ongles ou les cheveux, pour soit les brûler, soit les enterrer dans un endroit bien particulier, soit faire des rituels encore plus spécifiques de protection de la personne. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans le monde afro-caribéen. Il faut bien imaginer qu'à Naples, vous avez la même chose, en Grèce continentale de la même façon, et dans les Balkans aussi. Je ne sais pas, en revanche, si Picasso le tenait d'un héritage familial. L'Andalousie, en plus, est vraiment à la frontière entre la magie arabo-andalouse et un fond, qu'on va dire, plus européen d'alchimie et de magie. Et la confrontation, en plus, à cet art premier, dont on savait déjà que ça l'avait influencé sur le plan stylistique, ben ça l'a en plus influencé dans le sens magique. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une découverte de Diana et moi.
Stéphane l'a expliqué dans le récit, Picasso vit une forme de révélation lorsqu'il découvre les arts premiers au musée ethnographique du Trocadéro. Philippe, vous comprenez ce qu'il dit avoir ressenti face aux statuettes et face aux masques africains? Est-ce que ça vous fait pareil face aux collections du musée du Quai Branly?
Oui, ces objets-là, ils sont intéressants quand ils sont sales, quand ils ne sont pas propres, nettoyés. Certains galéristes, dans cette période-là, nettoyaient beaucoup trop ces masques, ces fétiches, et tout simplement pour qu'ils soient conformes à un standard européen. C'est comme une statue grecque, on l'aime bien quand le marbre est tout blanc, tout nickel. Alors que non, ça devait être peint, il devait y avoir des coulures d'offrandes, d'huile parfumée, de parfum dessus. Il fallait que ça soit normalement, entre guillemets, sale et patiné, et pas forcément propre. Donc oui, moi ça me parle. Et quand Picasso, à travers les écrits que Diana a exhumés, dit que lui, il laisse la poussière se déposer dessus, qu'il aime quand c'est sale, mais c'est pas de la saleté au sens... opposition du propre, c'est quelque chose qui acquiert une vitalité jour après jour, qui se charge de son atelier et donc de lui-même. Ce sont des objets qui finissent par devenir vivants. Et l'œuvre de Picasso, elle est exceptionnelle, que ce soit les sculptures, les céramiques, les peintures, parce que c'est bien plus que de simples objets d'art. Ce sont des objets qui sont toujours animés et vivants. Picasso n'est pas mort. Il vit encore à travers ses objets, pas simplement sur le plan artistique, mais vraiment sur le plan spirituel, métaphysique et anthropologique.
Diana, à la mort de votre grand-père en 1973, comment ont été classés, vu qu'il gardait tout, les milliers d'objets qu'il avait conservés tout au long de sa vie? C'est un inventaire titanesque. Est-ce que tout a été gardé sans exception? Est-ce qu'on redécouvre des choses parfois?
On redécouvre des choses parfois. Il a effectivement laissé plusieurs maisons, donc il y a eu d'abord un inventaire méthodique de ses biens immobiliers. Vous savez que religieusement, il fermait la porte et il n'y retournait jamais. Donc finalement, ça a été intéressant aussi d'une façon presque archéologique de retracer le parcours de Picasso. Mais ce sont des centaines, des milliers d'objets. Il y avait des peintures, des sculptures, des céramiques, des gravures, des livres illustrés. Mais aussi, et c'est ce qui m'a particulièrement intéressée, étant moi-même historienne de l'art, devant travailler dans les archives, plus de 200 000 documents d'archives, des milliers de photographies, des notes, voilà, des notes diverses qu'on continue à exploiter. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que le musée Picasso va créer un centre de recherche voilà, qui est en train de se préparer. Il a été lancé tout dernièrement et ça va permettre d'explorer ce fonds.
Et vous-même, vous continuez à, dans la tradition familiale, à tout garder? Les notes de restaurant, les vieux tissus?
Oui, je garde tout. Je garde tout, ouais. Et je vais même avoir une petite note à côté pour me rappeler pourquoi je les garde.
Ouais. C'est vraiment génétique.
C'est clair.
Moi,
je jette tout, même.
Oui, alors effectivement, que quand vous serez très célèbre.
Oui, ben oui, peut-être qu'un jour, c'est vrai, ça sera utile ou pas.
Ben, merci beaucoup, Diana Wiedmeyer, Ruiz Picasso. Merci à Philippe Charlier. Je rappelle que votre livre Picasso Sorcier est disponible aux éditions Gallimard. J'invite les auditeurs d'Europe 1 à visiter l'exposition Maya Ruiz Picasso, fille de Pablo, qui se tient jusqu'au 31 décembre prochain au Musée National Picasso, et c'est à Paris. Dans le Marais. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en retombant toujours sur ses pattes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui Clémentine retombe aussi sur ses pattes. Le chat, mais en croisé un noir et signe pour certains de mauvais présages. Vous nous racontez d'où vient cette superstition autour des chats noirs, Clémentine.
Quel est le peuple au monde qui a une véritable vénération pour les chats?
Les Égyptiens.
Ah, voilà. Ah, c'est là que c'est la connaissance de l'Égypte ancienne. Ouais. Voilà, on la trouve là. Oui, bah, le chat, il portait bonheur et tous les Égyptiens possédaient au moins un. Et dans le panthéon égyptien, il y a une déesse à corps de femme et tête de chat noir. C'est Bastet. Bastet, c'est la déesse de la joie du foyer, de la chaleur, du soleil. C'est une déesse protectrice des femmes enceintes et des enfants. Elle protège des maladies et des esprits malveillants, donc elle est super bien vue. Elle est à la fois, cela dit, douce et sauvage. C'est une vraie femme, Bastet, parce qu'elle est aussi associée à la vengeance du dieu soleil, et comme telle, elle peut être très dangereuse. Elle peut avoir notamment de terribles, terribles colères, quand je dis que c'est une vraie femme. Et quand elle est en colère, Bastet s'identifie plutôt à une autre déesse qui est la déesse de la guerre et qu'on appelle Sekhmet. Alors, elle a un autre pouvoir très intéressant, cette Bastet, la déesse à tête de chat, c'est qu'elle détient le pouvoir magique de stimuler l'amour. Elle stimule l'énergie charnelle. Et donc, ça lui vaut bien sûr une dévotion toute particulière de la part des Égyptiens. Voilà, elle est attirante, douce, cruelle. Elle est très aimée et c'est pour elle, c'est pour Bastet que tous ces chats qu'on a trouvés embaumés, enterrés dans des urnes sacrées, c'est pour Bastet. Alors, un chat noir qui stimule l'énergie sexuelle et qui est incarné dans une déesse féminine, bah évidemment le chat est une femme, du coup est associé à la femme. Et c'est pas compliqué de comprendre comment, de cette idée-là, on est passé à la croyance que le chat noir était une femme et donc une sorcière douée de pouvoir. Au Moyen-Âge, cette croyance est particulièrement tenace. On pense que les sorcières peuvent se transformer en chat noir comme elles veulent. Elles peuvent se transformer en chat noir combien de fois ?
7 fois.
9. Ah. 9 vies. Le chat a 9 vies. C'est pas 7 vies, c'est 9 vies. Hein. Il me semble bien que c'est ça.
Je crois que
c'est,
vous avez raison.
Ce qui est extraordinaire, c'est que la papauté prend position sur cette question quand même. En 1255, le pape Grégoire IX décrit les sorcières comme des créatures sataniques, mi-félines, mi-humaines. Donc la sorcière telle que vue et envisagée par le pape, c'est une Bastet, c'est un chat en fait. Un siècle plus tard, dans les années 1400, le pape Innocent VIII déclare que les chats sont l'animal préféré du diable et l'idole de toutes les sorcières. Il en connaît un rayon, manifestement. Et par extension, du coup, toutes les créatures à fourrure ou à plumes noires, non seulement les chats, mais par exemple aussi les corbeaux, deviennent signes de malchance, signes de mort, signes de sorcellerie. Alors évidemment, bien sûr, on le sait tous, hein, croiser un chat noir sur notre chemin au clair de lune est un signe évident d'épidémie imminente. Que votre chat noir s'allonge sur votre lit est là aussi mort imminente. Bon. Alors, les historiens pensent que l'éradication des chats noirs, moi ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux, mais elle n'aurait pas été, aurait joué un rôle dans la propagation de la peste bubonique au début du XIVe siècle, parce que si vous igouillez tous les chats, en particulier les chats noirs qui éradiquent les rongeurs, bah évidemment les puces et les rongeurs prolifèrent et la peste avec. Bon, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de professions et de pays du monde dans lesquels, tout au contraire, le chat noir porte bonheur. Par exemple, chez les marins, on pensait qu'avoir un chat noir, d'abord que le chat noir était annoncé par son malaise les variations de la météo, qu'un chat noir pouvait annoncer une tempête.
Et surtout, il permettait de tuer les rongeurs qui, eux, s'attaquaient au bout. Et aux cordes, on n'a pas le droit de dire corde sur un bateau.
Un bout.
Et donc, ça permettait de protéger justement les bouts.
Ah, en effet, mais alors, est-ce que c'était spécifiquement un chat noir pour les marins ? Apparemment, si qu'une femme de marin conserve un chat noir chez elle, et c'était la garantie qu'elle se montrerait fidèle pendant que son mari était au loin. Mais voyez, posséder un chat noir au Japon augmente les chances de trouver l'amour. En Angleterre, en Irlande, en Écosse, c'est un signe de bon augure d'avoir un chat noir. Pourquoi est-ce que chez nous, c'est très exactement le contraire. En tout cas, on observe encore aujourd'hui, chose incroyable, le fait d'être un chat noir, c'est un frein à l'adoption. Alors, est-ce que vous saviez qu'il y a une journée internationale des chats,
qui est le
8 août, journée internationale du chat? Eh bien, il y a un certain Wayne Morris qui, lorsque sa sœur chérie est morte, sa sœur possédait un chat noir qui s'appelait Simbad, qui a d'ailleurs vécu 20 ans, eh bien, il a créé une journée du chat noir, qui est le 17 août. Donc, le chat noir est le seul chat à avoir une journée internationale spécifique. Et apparemment, en France, il y en aurait 1 700 000. Comment compte-t-on les chats noirs? Alors ça, je dois vous dire que ça m'épate. Et alors, oui, quand même, j'ai trouvé, en effet, Mathieu, votre histoire de poils blancs, j'ai trouvé. Mais en Écosse ou en Angleterre. C'est-à-dire uniquement. Que ce poil blanc sous le museau sauverait le chat de la damnation éternelle. Ce serait la main de Dieu qui aurait voulu protéger cette créature de la malédiction
ancestrale. Parce qu'on les mettait dans des sacs et on les jetait dans la rivière. Merci beaucoup Clémentine,
c'était une belle chronique. Malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que vous allez démarrer le quiz avec un point en moins.
Pourquoi ?
Car le chat a bien 7 vies, comme je l'annonçais, et non pas 9, comme vous l'avez annoncé dans votre chronique.
Alors, attention à vos sources. Je n'ai pas la science infuse sur les chats noirs, je vous dis tout de suite.
Effectivement, en tout cas.
Donc c'est 7 vies, la sorcière.
7 vies, donc c'est...
Ah, c'est marrant, parce que ça, c'est plutôt un chiffre vétérotestamentaire, pour le
coup. Oui, comme vous dites, c'est vétérotestamentaire, mais c'est surtout un point en moins pour vous, et me signale-t-on, Régie, un point en plus pour moi tout à l'heure dans le quiz de fin d'émission. Merci, à tout de suite pour le quiz.
Europe 1. Historiquement vôtre.
L'heure du quiz, théâtre de toutes les bassesses, puisque je pense qu'à ce stade, la détestation est telle entre Stéphane et Clémentine que même le jour de son enterrement, il ne pourra s'empêcher de lui adresser une ultime pique.
Qu'est-ce qui était le plus gros chez elle ? Son QI ou son tour de poitrine ?
Bon Stéphane, quelle
ça,
honte !
C'est à propos de qui, ça,
Jouons
Stéphane ?
On ne sait plus, mais elle avait une grosse poitrine. Jouons.
Ah, mais oui, bien sûr, je sais. Ça devait être Jane Manson.
Vous êtes sûr de vous ?
Les
Parce
plus
que vous
beaux, oui,
perdre,
tout
vous
à fait.
Pas
les plus beaux seins d'Hollywood, elle avait 100. Est-ce que c'était pas 93 de tour de poitrine et elle avait 100 et quelques de QI, c'est ça ?
C'était ça.
Cela dit, vous pourriez dire ça de moi, ça me laisserait
ça
totalement. Absolument pas.
Non, il prépare son horizon
ça,
final.
Y a pour pas l'instant. Moyen. Et puis, de toute façon, vous mourrez avant moi, statistiquement.
On joue à Bernd Toubiel. On n'a pas commencé le quiz, déjà une minute dans la vue. Alors, les amis, 1983, on peut dire que Hiroshi Ueda a eu beaucoup de chance. Ouais, on peut le dire. Non seulement d'avoir une femme, mais surtout de l'avoir écoutée. Inventeur de la perche à selfie, elle lui a conseillé de déposer le brevet de son idée. Aujourd'hui, ils sont tous les deux plutôt à l'abri du besoin. Vrai ou faux ? Hiroshi Ueda a-t-il eu beaucoup de chance ?
Non, je crois pas, femme. Parce que je pense qu'il a utilisé sa perche à selfie devant une...
Un précipice.
Ouais, c'est le premier
et
à être mort.
Il y a sa femme recule un peu.
Ouais. Il est mort.
Donc vous dites faux.
Ouais, ça doit être le premier mort.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, mais pas comme vous l'imaginez. En fait, un brevet a bien été déposé en 1983 par ce Hiroshi Ueda, mais il est mort en 2003, juste avant que son invention ne devienne vraiment populaire, donc pas de chance pour lui. Question numéro 2, Clémentine, portée Keltenbach. 1987, l'agent Robert Hanson est au FBI. C'est lui qu'on a choisi pour trouver une taupe qui apparemment officie en secret dans son service. Coup de chance, 2 ans plus tard, alors qu'il part en vacances en famille, roule en voiture, s'arrête pour une pause sur une aire d'autoroute, totalement par hasard. Il tombe sur un collègue dans une cabine téléphonique et il fait vérifier la conversation. C'est lui la taupe. Cette histoire est-elle vraie ou fausse ?
En 87 ?
On est en 87.
Il y a donc encore des cabines téléphoniques ?
Il y a des cabines téléphoniques.
Oui, je trouve ça très amusant, le hasard complet dans lequel vous n'êtes pas du tout en service et tout d'un coup, vous voyez un collègue dans une cabine téléphonique. Bah oui, mais enfin, un collègue peut téléphoner dans une cabine téléphonique, c'est pas... Il était bien suspicieux, votre gars.
En fait, il travaille au FBI. Ouais. Vous dites ?
Non, je dis c'est fou.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse. En fait, c'est surtout un coup de malchance pour le FBI, car alors qu'en 1987, il demande effectivement à l'agent Robert Hansen de trouver qui est la taupe du KGB, ils vont découvrir en 2001 que c'est Robert Hansen lui-même, la taupe. Ce dernier échappera à la mort en donnant tous les autres agents doubles. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Stéphane, fin connaisseur de basket US en général et de Kobe Bryant en particulier, je voulais évoquer Elgin Baylor. Il joue pour les Lakers de Minneapolis en 1972. Il n'a joué qu'un match de toute la saison, il ne jouera qu'une minute, il ne mettra qu'un seul point, mais c'est celui qui, décisif, donnera le titre de champion à son équipe en 1972. Vrai ou faux,
oui,
cette
c'est
histoire
vrai, c'est vrai.
Il a bien connu, LG.
Mais non, j'y connais
il jouait
rien.
Quoi Il jouait quel poste
J'y connais rien, donc c'est pile ou face. Oui, c'est vrai.
Bon, je vous pose une question, comment il a fait pour mettre un point, surtout ?
Ah oui, c'est vrai, je sais pas que c'est un... Oh, non, basket, mais c'est par deux.
C'est normalement...
Donc ouais. C'est faux.
Vous avez...
Ah bah heureusement que je vous ai posé cette question bonus. Oui, alors c'est faux,
c'est
pas du tout pour ça. On peut faire au lancer franc, on peut mettre un point. Faux, non, il a joué 13 ans pour son équipe. C'est une légende, Elgin Baylor. Il a même perdu 8 finales, ce qui est un record. C'est le plus grand loser de l'histoire de la NBA. Et quand il prend sa retraite en 72, ben son équipe remporte enfin le titre de champion NBA qu'il n'a jamais eu. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Roland Garros, on est beaucoup dans le sport aujourd'hui. À Roland Garros, la couleur verte est très présente, notamment sur les bâches qui entourent les terrains. C'est un hommage direct à l'aviateur qui avait des vêtements verts quand il a établi son son record d'altitude en avion à Houlgate, ainsi que durant la première traversée de la Méditerranée en 1913. C'était sa couleur porte-bonheur, vrai ou faux?
Oh bon non, c'est la couleur de la BNP.
C'est la couleur de BNP.
Est-ce que la BNP aurait choisi son couleur, le vert pour et puis non, c'est harmonieux, c'est peut-être une un hommage au gazon de Wimbledon où ont commencé les premiers matchs de low tennis. Non, je pense pas du tout que ce soit Roland Garros qui avait des vêtements verts.
Qu'est-ce que c'est? Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Et comme c'était une question particulièrement dure, ça fait 2 points, Stéphane. Oui, bravo, Clémentine, vous égalisez la dernière minute. En fait, je vous raconte l'histoire.
J'en appelle à tous mes fans. Chers amis, ne tolérez pas une telle injustice.
Oui, non, mais enfin, Stéphane, il m'avait enlevé un point a priori mais avant même que le quiz ait commencé.
Ah bah parce oui, voilà. Que vous expliquez à nos auditeurs que les chats ont 9 vies, alors que tout le monde sait qu'ils
en ont 7.
Oui, bah que ne m'avez-vous interrompu plus tôt?
Ben non, je voulais justement faire un petit effet. C'est faux, mais pourquoi? Ça n'a rien à voir avec BNP Paribas, Clémentine.
Ah bon?
En fait, tout ce qui entoure les cours ocre de tennis de Roland Garros est vert. Parce que ce sont deux couleurs qui s'opposent chromatiquement. Ça apporte une meilleure vision à tout le monde. C'est aussi pour ça que les blouses des chirurgiens sont vertes. C'est la couleur complémentaire du rouge, du sang.
Ah, et
est-ce qu'on peut lui enlever un point parce qu'elle a parlé de Jane Manson?
Et c'était pas...
Bah, Jane Mansfield, quand même.
Oh, Mansfield, non, ah, voilà, là, c'est là, ça, là, ouais. Là, oh, là, bon, là. Bah, je suis fatigué.
Écoutez
là.
Pas aujourd'hui, parce que ça m'arrange pas vis-à-vis de la question 5, mais demain, donc, soyez sûr qu'elle démarrera avec un point.
On commence le quiz en expliquant que j'ai une grosse poitrine et un gros QI, ça je veux bien. Moi, je vous enlève 5 points pour Gougnafri et absence absolue
alors,
de
attendez,
galanterie.
Il y a une requête.
Et je m'en vais et je suis pas
moins
contente.
Moins 5 points pour Stéphane et moins 1 pour Clémentine dans le quiz de lundi. On va voir, on va étudier cette proposition. C'est vrai que vous avez fait preuve de grande goujaterie.
C'est
tout
pas
à
vrai.
Avec
c'est
ce
un
scandaleux.
Je suis très blessé.
Je prends le temps de vous le dire que parfois vous me choquez. Question numéro 5. Elle va vous départager.
Mon cœur saigne.
Histoire chinoise. Le mariage chinois est une coutume très ancienne. En 402 avant Jésus-Christ, on en trouve déjà trace. La dynastie Tang, vous connaissez bien Stéphane,
dans le 13e.
En 610...
Et où c'est une dynastie?
Tang
c'est...
et tous ses
sont
frères.
Sont des frères, sont oui, des frères.
Bien sûr.
Frères.
La dynastie Tang, en 618 après Jésus-Christ, propose dans son code légal une procédure de divorce. Tout le monde souhaite la chance aux mariés. En quelle couleur la mariée doit-elle s'habiller pour espérer réussir une belle union? 3 propositions, il va falloir aller très vite. Jaune, noir ou rouge?
Rouge.
Là, je laisse aux arbitres.
Ah, c'est moi, je t'ai dit.
C'est rouge.
Ah, c'est moi.
Mais non, pas
écoutez,
du tout, on l'a dit en même temps.
Stéphane a dit c'est moi, je pense qu'on peut lui faire confiance. Bravo, Stéphane. Magnifique victoire. C'est le rouge, mais pourquoi, Stéphane? Le rouge.
Le rouge porte bonheur en Chine.
Porte bonheur en Chine. Exactement.
Absolument.
Chance et bonheur, sachez que le jaune est la couleur de la.
Trahison, non.
De la pornographie, Stéphane.
Oui.
Pour vous, équivalent à la mort, visiblement. Non. Et le noir. Le noir, la couleur de. L'illégalité.
Ah.
Il ne faut pas se marier en noir et jaune.
Et le blanc, c'est le deuil.
Très bien. C'était un très beau quiz et j'en profite pour vous rappeler, puisqu'on parlait tennis tout à l'heure, que Roland Garros, c'est la semaine prochaine sur Europe 1, puisqu'on est radio partenaire du tournoi.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre. Si vous êtes à la maison, on croise les doigts pour que vous ayez touché du bois au préalable. Si vous êtes en voiture, on espère que vous n'avez pas oublié de mettre un petit fer à cheval sur votre calandre, car c'est aujourd'hui vendredi 13. Stéphane Bern est fébrile, mais il est là, prêt pour une deuxième heure.
J'y vais, mais j'ai peur.
Allez-y Stéphane, je suis là et personne ne va ouvrir de parapluie.
Oh, heureusement Mathieu, car aujourd'hui nos personnages sont super superstitieux. Après le peintre Pablo Picasso, tellement superstitieux qu'il n'a pas rédigé de testament, je vous raconte un compositeur de génie qui nous a légué des œuvres inégalées. Claude Debussy, qui avait lui aussi de drôles de petites manies.
Mais certainement pas autant que notre superstitieux encore vivant du jour. Tout à l'heure, je vous présente John Terry, Stéphane. Je sais que vous n'avez raté aucun de ses exploits sur les terrains, car vous êtes, au-delà du football, un grand fan de Chelsea.
Oui.
Vous connaissez donc par cœur son capitaine légendaire, John Terry, qui est votre joueur préféré.
Avec Hélène Segarra, que j'embrasse très fort.
Bien sûr, lui jouait plus dans l'axe, il était hyper superstitieux, vous verrez.
Mais pourquoi vous mettez des sons qui n'ont rien à voir?
Je ne sais pas. Vous voyez bien confondre les deux.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas cité Nana Mouskouri aussi.
Et Demis Roussos aussi. Oui, ils vont revenir très bientôt. Oui.
Oui. Alors, n'oublions pas nos chroniqueurs, qui sont un peu nos gris-gris dans cette émission.
Oui, David Saint-Patient.
David Cassé-Lopez qui nous raconte les origines de trois lettres qui ont fait beaucoup parler quand même dans
exactement.
Le pays.
Exactement.
La GPA.
Et sur lesquelles votre positionnement n'est pas clair, Stéphane. Je rappelle à nos auditeurs.
Oui. Il faudra qu'ici la fin de l'émission, vous ayez pris position.
On sent que vous marchez sur des œufs.
Pourquoi voulez-vous que je prenne position?
D'ici la fin de l'émission, vous aurez tranché. Pim pam, oui, comme, non, il faudra qu'on sache.
Et Dieu dans tout ça, et l'euthanasie, et etc. Vous voulez que je tranche des sujets?
Moi, j'attends. Vous êtes mon maître à penser,
mais
Stéphane.
Non, justement, je ne pense rien. Alors, avec Olivier Pouls, contrairement à ce que vous avez pensé, c'est pas le Fiadone corse, c'est les Fialoni italiens.
Exactement.
Dont on va parler avec Olivier Pouls.
Ouais, et contrairement à ce que Mathieu pourrait penser, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de point commun, à part un nom qui, évidemment, est très similaire. Mais vous allez voir que la recette est bien différente. Le Fiadone corse est un gâteau.
Amis, comme vous.
Et les Fiadone, ils sont.
Ça sortait de nulle part. On la pique au vieux, ça.
Ah, Stéphane. Pas oublier les 5 points.
Ah oui, les 5 points pour le prochain quiz. On peut peut-être négocier. Ah, on négociera en antenne, on verra.
D'accord.
Bon, la lutte finale, ça sera l'autre quiz de l'émission, en toute fin d'émission, pour savoir qui est le meilleur. Bon, là, pour l'instant, on le sait, pour l'instant, c'est moi. C'est bien que vous le rappeliez.
Depuis que c'est lui, il fait un point score. Alors, tous les jours.
Vous avez noté qu'avant, je ne le disais
jamais.
Je disais juste, ça sera le quiz, voilà. Pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il était super, comme dit ma grand-mère. Il était superstitieux aussi, comme l'histoire l'a raconté, disant qu'il lui fallait à tout prix toucher le bossu rencontré, car la bosse offrait une besace pleine de chance. Stéphane Bern nous raconte un compositeur qui a appris à composer avec ses superstitions, le génie de la musique Claude Debussy.
Quand Debussy se couche, il prend soin de positionner ses pantoufles de manière à ce que leurs pointes ne soient pas orientées vers le lit. Quand Debussy ouvre son courrier, il utilise le même petit poignard de jade pour toujours trancher d'abord le coin inférieur de l'enveloppe. Quand Debussy ouvre un colis, il défait un à un les nœuds, car tout arraché d'un coup porterait malheur. Quand Debussy voyage, il emmène systématiquement un presse-papier sculpté en forme de crapaud, sans lequel il considère impossible de se concentrer pour travailler. Quand Debussy croise un chat noir, il frissonne. S'il doit passer sous une échelle, il s'inquiète. Les superstitions, il les a toutes. Il écrit lui-même à son ami éditeur Jacques Durand que sa superstition égale celle d'un vieux corbeau. Claude Debussy a en effet multiplié les peurs irraisonnées et les rituels censés conjurer un potentiel mauvais sort. Pourtant, à découvrir la vie et l'œuvre de ce grand compositeur, on ne peut que s'étonner de cette adhésion à d'inexplicables traditions et croyances, tant penser, vivre et créer en dehors des cadres préétablis est une permanence dans l'existence du musicien. Dès ses études au Conservatoire de Paris, qu'il intègre à l'âge de 10 ans, en 1872, le jeune Claude Debussy fait montre d'un tempérament anticonformiste et indépendant. Il est très doué au piano, mais largement dissipé et quelque peu désinvolte face aux cadres imposés. Il faut dire qu'il n'a jamais été à l'école. Sa mère s'est occupée de son instruction à domicile, ce qui participe sûrement à son besoin d'autonomie. Surtout, Debussy fait preuve d'une sensibilité musicale qui ne correspond pas à celle que l'on veut lui inculquer. Il dira plus tard, l'étude de l'harmonie telle qu'on la pratique à l'école est bien la façon la plus solennellement ridicule d'assembler les sons. Les éminents professeurs à qui il livre des exercices harmoniques jugent que Debussy fait des erreurs. Elles lui coûteront d'ailleurs parfois des prix et des bonnes places au classement. On lui reconnaît des aptitudes et une intelligence musicale, mais on cherche sans cesse à la brider. Debussy, lui, ne veut surtout pas l'être, bien au contraire. Il veut s'ouvrir à de nouvelles possibilités, et ses erreurs sont en réalité des audaces qui serviront de socle à sa création musicale. S'il est parfois incompris, il parvient tout de même à contenter l'académisme de son époque en obtenant le premier prix de Rome en 1884 avec la composition de sa cantate « L'enfant prodigue ». Cette prestigieuse récompense lui ouvre les portes de la non moins prestigieuse Villa Médicis à Rome. Mais Debussy ne se plaît guère dans la ville éternelle, goûte peu le bel canto de l'opéra italien. Il vit mal son exil et laisse un sentiment mitigé à ses pairs.
Ainsi, un rapport de 1886 note qu'il semble se préoccuper uniquement de faire de l'étrange, du bizarre, de l'incompréhensible, de l'inexécutable. Incompris, il l'est, et le restera un moment, hors d'un petit cercle d'initiés. Pour l'instant, de retour en France, Debussy donne quelques leçons, accompagne des cours de chant, profite de son temps pour s'ébrouer dans la bohème parisienne et aiguiser sa singulière sensibilité. Il se mêle au milieu symboliste dans lequel les artistes s'éloignent du naturalisme et du positivisme ambiant pour se glisser dans des univers oniriques, mélancoliques, voire pessimistes, volontiers teintés d'ésotérisme. Il fréquente même à l'occasion le milieu occultiste de l'époque, ce qui nourrit certainement ses nombreuses superstitions. Claude Debussy rencontre beaucoup d'artistes et apprécie particulièrement les poètes. Il utilise en effet les vers d'auteurs qu'il affectionne pour ses mélodies, comme deux de Paul Verlaine. Et c'est justement en s'inspirant de la poésie que Debussy va connaître en 1894 son véritable premier succès avec Prélude à l'après-midi d'un faune, traduction musicale d'un long poème de Stéphane Mallarmé. Debussy utilise toutes les subtilités de l'orchestre pour suggérer des atmosphères, évoquer un monde poétique et les mille nuances de la nature. Lors de l'exposition universelle de 1889, Debussy avait découvert les musiques venues des lointaines Indonésie ou Indochine et s'était réjoui d'entendre des interprètes qui, selon ses mots, apprennent la musique aussi simplement qu'on apprend à respirer. Leur conservatoire, c'est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles et mille petits bruits qu'ils écoutent avec soin sans jamais regarder dans d'arbitraires traités. Ceci résume parfaitement la façon dont le compositeur envisage la musique. Il cherche à décrire des sensations plutôt que des sentiments. La mélodie ne s'élabore pas dans les contraintes du solfège, mais dans la volonté de transcrire des impressions, le plus souvent inspirées de la nature, dans des pièces aux titres évocateurs, tels « Jardin sous la pluie ». C'est pour cette raison que Debussy a souvent été qualifié de père de l'impressionnisme musical, appellation qu'il ne semblait pas valider mais qui illustre ses compositions. Le jeu de Debussy utilise d'ailleurs beaucoup la pédale forte qui, en laissant les cordes du piano vibrer, permet parfois de créer une impression de flou harmonique qui appuie la dimension évanescente de ses compositions. Debussy innove, ce qui trouble régulièrement son auditoire. Ainsi, la répétition générale de son unique opéra, Péléas et Mélisande, qui se tient en avril 1902 à l'Opéra Comique, donne lieu à une véritable petite bataille artistique. La jeunesse manifeste son enthousiasme au balcon, pendant que d'autres se gaussent d'un phrasé trop théâtral. Il est vrai que l'on n'est à l'époque pas habitué à comprendre les paroles. Le public est parfois circonspect face à des harmonies nouvelles, à une musique continue mais discrète dont il peine à identifier les thèmes et structures. Mais les représentations s'enchaînent avec succès. Debussy commence à être célèbre. Il se donne peu en concert, mais compose beaucoup d'œuvres et s'essaye à de surprenants mélanges instrumentaux, tels l'original sonate pour flûte, alto et harpe, en 1915. Sa production musicale est malheureusement interrompue en 1918 par sa mort prématurée à 55 ans, que ses innombrables superstitions n'ont pas réussi à conjurer. Mais il laisse un héritage immense. Les libertés qu'il s'est octroyées en s'affranchissant des codes inspireront de nombreux musiciens après lui. Ironique pour celui qui disait « Je ne révolutionne rien, je ne démolis rien, je vais tranquillement mon chemin, sans faire la moindre propagande pour mes idées. Je n'ai pas de disciples, je suis moi. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Claude Debussy, nous sommes Stéphane avec une écrivaine qui lui a consacré une biographie. Bonjour Ariane Charton.
Bonjour.
Bonjour Ariane Charton, vous êtes l'auteur d'une biographie de Claude Debussy parue dans la collection Folio des éditions Gallimard. Je l'ai expliqué, Debussy applique un certain nombre de rituels au quotidien pour contrer le mauvais sort. Et pour ses travaux de composition, quel rituel, au fond, il met en place pour stimuler sa créativité ? Est-ce que là aussi, on décèle chez lui quelques obsessions ?
Oui, oui, c'est quand même un être assez obsessionnel, bah, comme un certain nombre d'artistes. Il est assez superstitieux, justement, comme vous le disiez, lorsqu'il s'agit de la composition. Le moindre signe l'alerte, donc justement dans cette lettre à Jacques Durand, les choses vont bien, et il se dit, il ne faut pas qu'il en parle, de peur que la grâce le quitte. Et il a un certain nombre de rituels qui l'accompagnent toute sa vie. Et au quotidien, il a vraiment besoin d'être entouré de beaux. Toute sa vie, il s'est ruiné pour acheter des objets, des bibelots, voilà, notamment dans tout cet univers un petit peu japonisant qui était très à la mode. Et même enfant, une fois, il sort du conservatoire avec ses camarades et la mère de l'un d'entre eux leur propose de leur offrir des gâteaux. Ses camarades choisissent les plus gros gâteaux et lui, il choisit le plus petit, mais celui qui est le plus beau. Donc, il a vraiment besoin d'être nourri intellectuellement par la beauté. Il a ce presse-papier, c'est un crapaud d'origine asiatique qu'il appelle Arkel, hein, du nom d'un personnage dans Péléas. Il s'était fait faire aussi des espagnolettes par le sculpteur Alexandre Charpentier, qu'il aimait à toucher en fait au moment où il allait un petit peu composer. Donc il a besoin de cette beauté pour aider la composition, pour aider la grâce artistique de venir en lui.
Alors Ariane Charton, des années 1880 à sa mort, Claude Debussy a composé plus de 200 œuvres musicales. Comment on pourrait définir sa musique, lui que ses contemporains qualifient volontiers de révolutionnaire?
Alors c'est vrai que dès le conservatoire, hein, il étonne, il est farouche, parce que surtout il est le premier musicien à ne pas avoir vraiment de système, de méthode. C'est-à-dire qu'il fait des combinaisons rythmiques que ses professeurs ou ses condisciples ne comprennent pas, des harmonies particulières, parce qu'il se laisse porter par vraiment le sentiment, la sensation qu'il éprouve. Et ça ne veut pas dire du tout qu'il est écrit au hasard, bien au contraire, parce qu'en fait, dans sa composition, il cherche ensuite à garder la pureté de cette première impression, tout en arrivant justement à la traduire de la manière la plus parfaite possible. Et donc, il n'entre jamais dans un système, et pour ça qu'on voilà, on qualifie un peu sa musique d'impression vague, d'incohérente. Et puis, il y a aussi ce qui est assez révolutionnaire, c'est qu'il arrive à faire le lien entre deux esthétiques qui cohabitent à l'époque, c'est l'impressionnisme et le symbolisme. Il est un petit peu le reflet de ces deux mouvements artistiques, mais il s'en est nourri de façon extrêmement personnelle, qui fait qu'il cherche, il reste inimitable. Voilà, il cherche vraiment une forme simple, à l'opposé de la plupart de ses contemporains qui font encore une musique très orchestrale, très habillée. Et vraiment, toute sa vie, il se montrera vraiment à part et voilà, révolutionnaire à sa façon.
Mais ça lui donnait des excès de spleen toute sa vie. Au fond, il en souffrait d'être incompris ou d'avoir parfois des
Alors pas vraiment non, il souffre pas vraiment d'être incompris par ses contemporains parce qu'il pense que ces derniers en fait ne peuvent pas le comprendre. Il dit qu'il écrit de la musique qui sera compris par les petits-enfants du 20e siècle. Donc en gros ma génération, enfin voilà la génération même de après. Et en fait par exemple les applaudissements après ses concerts, ça l'agaçait, il trouvait que c'était un peu une manifestation de sauvage. Lui ce qu'il aurait voulu c'est qu'on fasse le silence. Donc les raisons en fait de son spleen, c'est vraiment sa profonde difficulté à composer. Voilà, il a laissé énormément d'œuvres ébauchées, hein, pas terminées, et c'est son souci de grande perfection. Voilà, et en fait, il est très souvent très mécontent de lui. Sa difficulté à exprimer parfaitement son rêve, et c'est ça qui lui donne régulièrement des envies de suicide. Et en même temps, il est soutenu par son désir de faire de la musique, voilà, de servir la musique. La musique le désespère, et en même temps, c'est sa raison de vivre.
Debussy cultive un anticonformisme certain dans la musique. C'est également le cas dans sa vie privée. Vous vous rappelez qu'il a longtemps vécu en concubinage. Lui aussi, il rejette les valeurs établies, les mœurs de son temps, en gros.
Oui, c'est vrai qu'il a dans sa vie personnelle, il est assez anticonformiste. Déjà, il commence sa carrière sentimentale avec une liaison avec une femme mariée, Marie Vanier. Ensuite, il vit en concubinage avec une Gabrielle Dupont, qui est une modiste. Ensuite, il finit comme par se marier avec Lily Texier, qui était un mannequin. Mais rapidement, le mariage va battre de l'aile. Il va la tromper avec la mère de l'un de ses élèves, Emma Bardac. Et ils auront leur fille chouchou, Claude Emma. Ils l'auront hors mariage. Voilà, ils ne régulariseront leur situation que lorsqu'ils seront tous les deux divorcés et que leur petite fille aura déjà quelques années. Et puis il meurt aussi criblé de dettes. Voilà, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'est jamais arrivé à gérer correctement effectivement son argent. Donc il appartient par sa position à une certaine élite, et en même temps il ne s'est jamais soumis au code de la bonne société, voilà, qui voudrait de faire un mariage correct, de et d'avoir d'avoir une vie assez réglée, pas par provocation, mais parce que c'est sa nature.
Claude Debussy a inspiré de nombreux compositeurs, j'imagine, après lui, et on dit qu'il est aux origines de la modernité en musique, c'est vrai ?
Alors, on lui aurait mis une étiquette comme ça, ça l'aurait assez agacé, parce que justement, il n'aime pas les étiquettes, il veut être lui-même, mais après, c'est vrai qu'il vit à une époque de la naissance de la modernité, et on peut voir que notamment certaines œuvres à la fin de sa vie s'apparentent un peu à une forme d'abstraction appliquée en musique, et c'est vrai qu'il renouvelle quand même profondément le répertoire pour piano, voilà, en explorant des nouvelles possibilités musicales, en tirant parti de toute l'étendue du clavier, des pédales, voilà. Donc là c'est vraiment c'est l'instrument d'ailleurs sur lequel il revient à la fin de sa vie et à qui il donne vraiment une nouvelle dimension, et le legs de Debussy aux compositeurs de ensuite, c'est vraiment cette liberté de composer, d'être eux-mêmes, d'explorer l'univers musical qu'ils ont en eux sans se plier à des méthodes ou à des systèmes.
Merci beaucoup Ariane Charton de nous avoir fait découvrir l'âme tourmentée du compositeur de génie que fut Claude Debussy. Je rappelle que la biographie que vous lui avez consacrée, Debussy, est disponible dans la collection Folio des éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on réunit de super superstitieux. Après Pablo Picasso et Claude Debussy, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de John Terry, un grand joueur de foot grandement superstitieux lui aussi.
Je sais, Stéphane, que le football est la troisième chose au monde que vous aimez le moins, après, disons...
Le paludisme et la dysenterie.
Et pourtant, nous y voilà, encore un footballeur.
Les voilà, les footballeurs.
Oui, je vous ai mis une petite chanson de votre époque pour que vous acclimatiez tranquillement au thème. Vous êtes mieux, là, les frères Jacques, ça vous parle. Jouons franc-jeu, Stéphane, vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vu des footballeurs ?
Ils étaient tout nus et enduits de miel.
Non, pas dans un cadre privé, je veux dire à la télévision, Stéphane. C'était probablement au début des années 2010. Eh bien, ça tombe bien, c'est à cette époque que mon personnage du jour régnait sur le football anglais. 5 titres de champion d'Angleterre, 4 coupes d'Angleterre et une Ligue des champions. Même si c'est la première fois que vous entendez son nom, croyez-moi, Stéphane, John Terry est une légende. Surtout à Chelsea, le club auquel il fut fidèle pendant 21 saisons. Heureusement, pour le sel de ce portrait, il sera plus fidèle à son club qu'à sa femme, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais d'abord, expliquons en quoi John Terry, aujourd'hui retraité, fut peut-être le joueur le plus superstitieux de l'histoire. De son propre aveu, il cumulait près de 50 superstitions, toutes plus ridicules les unes que les autres, au point de devenir la risée de ses coéquipiers et même de ses concurrents, qui ont fait de ses obsessions de véritables running gags. La plus sévère de ces superstitions, l'obligation pour notre pauvre John d'utiliser toujours le même urinoir lorsqu'il joue à domicile dans le stade de Stamford Bridge. Son nom aurait dû être gravé en lettres d'or sur la faïence de son pot porte-bonheur. Oui, non mais si la place est occupée par un autre joueur à la mi-temps, eh bien John il attend son tour, alors qu'il y a 10 urinoirs évidemment, à tel point que ce toc met parfois carrément l'équipe en retard sur le terrain pour entamer la deuxième mi-temps. Vous avez l'image de John patientant derrière son coéquipier parce qu'il veut faire pipi que dans l'urinoir numéro 5, voilà, je ne m'y attarde pas car je vous confesse moi-même avoir un léger traumatisme lié aux urinoirs de vestiaire sportif. Cette camaraderie virile, ces petites plaisanteries qui fusent, parfois aussi ces vantardises.
50 cm, la taille d'un nouveau-né.
Tout ça, contrairement à vous Stéphane, me met assez mal à l'aise. Autre superstition de John, interdiction pour lui de toucher le ballon dans les vestiaires, c'est péché. Évidemment, vous connaissez le côté taquin du footballeur, certains coéquipiers s'amusent régulièrement à lui balancer une balle dessus histoire de voir sa réaction. Réaction qui a été décrite comme similaire à celle que vous aviez eue Stéphane quand votre banquier vous avait annoncé l'autre jour que votre compte avait été piraté.
Vite, une infirmière !
Oui, John ne supportait pas qu'on manque de respect à ses superstitions. Parmi ces rituels censés éloigner le mauvais œil, entourer religieusement de 3 tours de ruban adhésif ses chaussettes. Pourquoi ? J'en sais rien pourquoi, moi, pourquoi ? Comment voulez-vous que je rationalise les actions d'un homme qui porte les mêmes protège-tibias pendant près de 10 ans, sous prétexte qu'il est convaincu que ce sont précisément ses protège-tibias qui lui ont façonné sa carrière et ses victoires ? Il les jette finalement à la poubelle après une défaite contre Barcelone, avant de regretter et de missionner une dizaine de stadiers pour les lui retrouver. Côté parking aussi, on l'imagine, c'est compliqué pour John. Sur le parking du stade, il doit se garer toujours à la même même place. Sinon, enfin, y a pas de sinon, Stéphane. C'est comme ça, c'est tout. Sinon, la mort, c'est ça, les vrais superstitieux. Un jour, je suis arrivé à l'heure du déjeuner avant un match et ma place était prise. J'étais totalement déstabilisé. Toutes les heures, je retournais sur le parking pour voir si la place était encore occupée. L'heure tournait et j'ai finalement demandé à un des employés du stade de guetter et de déplacer ma voiture au moment où la place se libère. 2 heures pour déplacer ma voiture. Il a dû penser que j'étais fou. Oh non, John, il s'est juste dit...
Quel con !
Dans sa voiture, justement, avant chaque match, lorsqu'il se rend au stade, Terry ne peut pas, comme nous, faire confiance au mode shuffle de son iPhone, non. Car il n'y a évidemment qu'une seule musique qu'il peut écouter avant un match. Celle-ci, Yeah Yeah de Cher.
Quel con !
Faites attention, Stéphane, John Terry est peut-être retraité, mais il est encore en pleine forme et il est du genre sanguin. Au cours de sa carrière, il a déjà été condamné à 2 semaines de suspension après une altercation dans un bar à l'aéroport Heathrow en 2001. Puis en 2002, il est accusé d'être responsable d'une bagarre dans une boîte de nuit à Wimbledon. Donc je serai vous, j'éviterai de le traiter de con toutes les 3 phrases, d'autant que John Terry restera surtout dans l'histoire pour ses prestations footballistiques.
Et voilà.
Il naît à Londres en 1980, je vous résume son parcours ainsi, école nulle, foot surdoué. Il est recruté par Chelsea à seulement 14 ans, à 18 il fait ses débuts en Première Ligue où, outre le rituel des chaussettes et de l'urinoir, il se distinguera par ses performances, sa niaque et surtout sa fidélité, tout à fait unique dans le football moderne. Fidélité totale à Chelsea, donc un peu moins totale à sa femme. Quoi ? Un footballeur qui trompe sa femme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Certainement la faute à un connard qui l'a obligé à utiliser un autre urinoir que le sien. Car oui, Johnny s'est fait choper. C'était en 2020 qu'éclate le scandale dit de la Frenchie. Il trompe son épouse avec notre compatriote Vanessa Peroncel. Vous la connaissez, Stéphane ?
Non,
pas du tout. Elle est simplement mannequin et connue pour être l'ex-compagne de Wayne Bridge, l'un des meilleurs amis de Terry. Quelle poisse, mais quelle poisse. Pour quelqu'un qui pourtant fait tout pour se prémunir de la poisse, c'est vraiment rageant. Alors heureusement, John fera un petit point avec sa femme, il veillera à bien viser la petite abeille de son urinoir fétiche et tout finira par rentrer dans l'ordre. Voilà, vous pouvez souffler, Stéphane, mon portrait footballistique touche à sa fin. Vous avez vu, j'ai essayé d'y instiller du sexe le plus possible afin de compenser le fait qu'on parle d'un footballeur. Mais rappelez-vous, dans ces moments-là, quand je parle d'un domaine que vous ne connaissez pas du tout, que moi je suis payé pour faire semblant de comprendre ce que vous me racontez au quotidien. Et pourquoi c'est les Orléans qui montraient sur le trône et pas les Bourbons ?
Parce qu'il y a ce qu'on appelle le vice de pérégrinité. Le vice de pérégrinité, c'est quand tu fondes une maison royale étrangère, tu t'exclus de facto de la succession au trône de France. La preuve, ils n'étaient pas en exil quand les autres, quand les Orléans étaient condamnés à l'exil.
C'est logique. Allez, bon, c'est logique. Je suis quand même un grand acteur, Stéphane. Même quand je comprends rien ce que vous me dites.
Vous faites semblant, moi
je
aussi.
Je fais semblant, vous aussi.
Mais
et John Terry jouait dans quelle équipe ?
Chelsea.
Ah oui, bien.
Vous connaissez, visiblement, vous connaissez Mademoiselle Peroncel.
Ben, je la connaissais, bien sûr.
Oui, Vanessa Peroncel.
Dans les pages, elle a fait les belles heures, des pages lingerie.
Oui, ah oui. Très bien.
Il avait très bon goût, ce John.
Ah, parfait. Ça me rassure.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui étaient des super superstitieux.
Pour retrouver, Stéphane, 2 chroniqueurs qui sont super tout court. Et lui, il est super quand il nous prépare des fiadoni. Qu'est-ce que les fiadoni, Olivier ?
Une petite spécialité italienne qui n'a rien à voir avec son homonyme corse, le fiadone, et donc qui devrait convenir à notre ami David.
Ouais. Avant les fiadoni, découvrons les origines de la GPA. N'est-ce pas la gestation pour autrui avec David Castello-Lopez.
Réduire une suite de mots à leurs initiales, des fois ça paraît normal, ça donne un côté froid et institutionnel qui est cohérent avec la chose dont on parle. Les syndicats par exemple, vous voyez, CFDT, CGT, FO, ou les banques, CIC, LCL, BNP. Mais je trouve qu'il y a des domaines de l'existence où ce genre de sigle, ça va pas du tout. Et notamment tout ce qui touche à des choses aussi profondes que la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, ça consiste quand même à demander à une dame non seulement de vivre une grossesse à votre place, mais aussi, ça va avec, d'accoucher à votre place. C'est un acte d'une profondeur folle et on appelle ça la GPA. On dirait le nom d'une assurance habitation, vous voyez, ou d'un jeu vidéo de voiture. C'est pas du tout assez poétique ni solennel. Et puis le sigle GPA, ça donne aussi l'impression que la gestation pour autrui, c'est une activité récente, alors qu'en fait, ça date de la nuit des temps. La Bible, je sais pas si vous savez, mais elle est toute fourrée de GPA.
Non.
Abraham, par exemple, il voulait avoir un enfant avec sa zouze, Sarah, mais pouvait pas, Sarah, et donc elle a dit à Abraham, t'as qu'à essayer avec ma servante Agar, c'est ce qu'il a fait, et ça a donné Ishmaël, en quelque sorte, la première GPA de l'histoire. Quelques dizaines d'années plus tard, le petit-fils d'Abraham, Jacob, qu'on a tous connu, un type super, eh ben, il a fait la même chose avec la servante de sa femme Rachel, qui s'appelait Bilha. Et à vrai dire, tout au long de l'histoire, ce genre de GPA, Elles étaient très courantes et c'était des arrangements privés. Oh là là, Michel, je suis triste parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Eh ben, c'est pas grave, chérie, j'ai qu'à zoom zoom zen avec ta copine Sylvie qui adore rendre service et quand elle accouchera, l'enfant sera à nous. Et puis, à partir des années 80, il y a eu deux choses qui ont fait qu'on a dû se pencher de façon un petit peu plus organisée sur le principe de la GPA. La première, c'est l'invention de la fertilisation in vitro, hein, qu'on appelle aussi par ses initiales, FIV, réalisée dans le cadre d'une PMA, hein, encore des sigles complètement honteux. Et cette fertilisation in vitro, elle a permis des choses inédites, à savoir qu'on a pu prendre la graine de maman, l'associer à la graine de papa dans une assiette et implanter ensuite tout ça dans une autre dame qui mène l'enfant à terme sans avoir le moindre lien génétique avec lui. Et la seconde chose, c'est qu'il y a eu aux États-Unis un certain nombre de litiges juridiques qui ont tous pris la même forme. Hein. Un couple signe un contrat avec une dame en lui disant « tu nous fais une GPA, ensuite tu nous donnes le bébé et nous on te paye ». Sauf qu'une fois que le bébé était né, cette dame disait « non mais en fait, vous savez quoi, gardez votre oseille, le bébé, il est à moi. Mmh. » Et ça s'est terminé plusieurs fois devant les tribunaux. Et donc, à partir de là, les pays, ils ont commencé à légiférer sur la GPA. Il y a des endroits qui l'ont légalisée complètement, comme certains États américains. Il y a des endroits où elle est autorisée, mais sans échange d'argent. Il faut que ce soit uniquement par générosité, parce qu'on considère que l'argent, c'est sale. Petite parenthèse quand même, il me semble que si je passais 9 mois de ma vie à porter le bébé de quelqu'un d'autre puis à accoucher dans la douleur, j'aurais rien contre une compensation un petit peu plus consistante que franchement merci, c'était trop sympa, t'as un cœur en or. Et enfin, il y a des endroits où la GPA elle reste interdite, comme en France depuis 1994. Pourquoi est-ce que la GPA est interdite en France? Eh bien, un peu comme pour la prostitution, au nom de la lutte contre ce qu'on appelle la marchandisation des corps. On considère dans l'ensemble que c'est sale que quelqu'un ait le droit de vendre son corps. Personnellement, je trouve ça légèrement étrange, dans le sens où c'est un peu arbitraire. Parce que personne trouve ça bizarre que quelqu'un vende l'extérieur de son corps. Genre pour soulever des choses lourdes, on peut vendre son corps. Pour faire
c'est
des massages.
C'est l'intérieur qui est sacré.
C'est l'intérieur du corps pour lequel c'est pas possible. Et on a considéré, disons, en tant que société, que c'était sacré. Il y a quand même quelque chose qui reste un petit peu délicat, même si bon, moi je suis quand même dans l'ensemble, je le dis, pour la GPA. C'est que quand même, à mon sens, on peut accepter de porter l'enfant de quelqu'un et finalement être un peu bouleversé au moment de l'accouchement, oui, au point de changer d'avis. Et ça, je trouve que avoir le droit de changer d'avis au moment où on accouche, ça pour le coup, c'est sacré. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham dans la Bible. Quand Agar, la servante de Sarah, a accouché d'Ishmaël, elle a commencé, dit la Bible, à mépriser sa patronne, au point que Sarah a fini par la bannir, elle et son fils Ishmaël. Donc c'était un sujet délicat il y a 3000 ans, c'est pareil aujourd'hui.
Alors si je puis me permettre, il y a un exemple dans lequel on vend l'intérieur de son corps et c'est tout à fait accepté.
Ah oui.
C'est quand vous faites des essais pour des médicaments par exemple, c'est vous êtes payé et vous sacrifiez votre corps puisqu'il y a une prise de risque.
C'est vrai, donc c'est vrai qu'il y a complètement, on vend l'intérieur de son corps.
Il y a une chose que j'aimerais, une question que j'aimerais vous poser quand même, David, pour comprendre. Si par exemple, parce que je connais des gens qui ont fait ça aux États-Unis, ils sont allés voir, ils ont sélectionné une dame selon les enfants qu'elle avait eus, selon ses critères physiques, selon... Donc en fait, il y a un côté un peu eugénisme, vous voyez, de sélectionner pour être sûr, parce qu'il voulait un bébé comme ça, et puis donc on sélectionne la mère, on sélectionne...
Ah, mais ça, c'est dans le cas où on ne mélange pas, entre guillemets, l'ovule de la maman et le sperme du papa.
Par exemple, des messieurs ensemble qui disent on veut un enfant, et donc ils cherchent une petite graine de dame en veillant à ce qu'elle ait de bons gènes, surtout, et puis ensuite on cherche un autre ventre, en veillant à ce que ça soit quelqu'un de formidable aussi, et on paye 120 000 euros.
Oui, est-ce que c'est si différent...
Je peux vous avoir un prix, Stéphane.
Est-ce que c'est si différent des gens qui, dans la vie, choisissent quelqu'un qu'ils trouvent joli pour que leurs enfants soient jolis? C'est voisin.
Oui.
C'est juste un petit peu plus organisé, mais c'est pas si différent.
J'ai pas de réponse. Hein. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas d'avis sur la question.
Notre petite conversation qui ne peut pas s'éterniser prouve une chose, c'est que le débat philosophique sur la GPA est très compliqué et il y a plein de questions inexplicables. Donc voilà, on va pas le trancher aujourd'hui.
Merci David, c'est passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et maintenant, on va se réconcilier. On va se réconcilier autour de Fiadoni, signé Olivier Pouls.
Oui, je crois qu'il y aura moins de débats musclés. Hein. On sera davantage d'accord. Hein. La question, c'est est-ce qu'on accepte le fromage dans les gâteaux ou pas? Je sais que David est contre.
Moi, je suis plutôt pour. Je ne peux pas vous les dire.
Bon, évidemment, alors, on parle bien des Fiadoni et non pas du Fiadone, qui est donc ce gâteau corse à base de brochouk et que n'aime pas David. Mais là, je vais le réconcilier, puisque là, il s'agit de petites ravioles de pâte qui sont servies traditionnellement à Pâques, mais qu'on trouve maintenant toute l'année, dans la région des Abruzzes, en Italie, donc au centre de l'Italie. C'est une recette qui est attribuée au XVIe siècle, en 1557, dans un livre paru à cette année-là, à un chef qui s'appelait Cristifaro di Messungsbugo. Il était l'intendant de la maison d'Est.
Vous voulez pas donner votre texte à David qui puisse nous dire et qu'on rêve un peu
Cristifaro
avec le bon accent. Mais non, mais pas vous.
On essaiera de faire après.
Voilà. Bon, mais vous me rattraperez sur le. Et pardon à nos amis italiens pour la prononciation. Alors c'est un plat qui s'est largement popularisé. J'ai dit dans les Abruzzes, probablement à cause d'un des ingrédients qui était une des constituantes essentielles à ce moment-là, c'est le safran. Et les Abruzzes étaient une région dans laquelle on cultivait du safran. Alors ensuite, le plat, évidemment, a voyagé comme beaucoup de plats et il s'est adapté, en fait, aux différents produits qu'on pouvait trouver localement. Mais normalement, dans la vraie recette du Fiadone, il y a un ingrédient qui lui est resté, qui est le fromage. Alors le fromage...
Mais lequel ?
Alors lequel, normalement, c'est du rigatino. Alors le rigatino, c'est un fromage à pâte mi-molle, qui est un fromage de brebis et de vache. Mais on peut aussi mettre du pecorino, ou on peut aussi mettre toutes sortes de fromages italiens qu'on souhaite, même du parmesan, si on en envie. En général, on mélange des fromages. Il faut savoir que c'est un plat qui était réalisé en général à la maison, mais comme les gens n'avaient pas de four, ils se rendaient ensuite chez le boulanger et allaient cuire leur petite ravioles, leur fiadoni dans le four du boulanger. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un plat qui est inscrit officiellement au patrimoine gastronomique italien. C'est-à-dire qu'ils en sont assez fiers. Alors, il y a une version sucrée aussi qui existe, qui elle est farcie de ricotta, de sucre et de zeste de citron avec petits fruits confits. Et sinon une version salée. Alors je vous donne la technique pour faire la pâte.
C'est facile à faire.
Oui, c'est très facile à faire. 300 grammes de farine, vous me suivez. 2 œufs, 10 centilitres d'huile d'olive, 10 centilitres de vin blanc sec et une toute petite pincée de levure. Faites un puits dans votre farine, vous mélangez les œufs avec l'huile, avec le vin blanc, avec une petite pincée de sel aussi. Vous versez ça dans le petit puits, on rajoute la levure, on mélange avec les mains et on fait une belle boule d'une pâte qui doit être assez lisse et un petit peu élastique et qu'on va laisser reposer pendant une heure, tout simplement. Ensuite, la farce. Alors moi, je pars sur une farce salée parce que j'aime bien ça. 300 grammes de fromage italien, un petit mélange de fromage italien. On va couper en tout petits morceaux. On va rajouter 2 œufs battus, une petite pincée de safran, un peu de poivre. Et ensuite, on va étaler la pâte très finement. On fait des petits disques d'environ 10 cm de diamètre. Un petit peu de farce au milieu. On referme, on soude avec les doigts et on badigeonne avec un jaune d'œuf qu'on a mélangé avec 2-3 petites gouttes d'eau. Et ça va donner le côté doré. On fait quelques stries par-dessus pour permettre à la farce légèrement de sortir au moment de la cuisson.
C'est comme des raviolis.
Ça va donner un côté très, très gourmand. Mais on les cuit au four et non pas dans l'eau. Chaleur tournante, four 200 degrés.
C'est une intervention que je ne loupe jamais.
Voilà. Et il faut donc que cette pâte devienne bien dorée, bien croustillante. Et à l'intérieur, on a notre fromage qui a fondu, qui est tout coulant avec cette
On
peut le faire évidemment.
Ah, le taleggio. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Alors, c'est le moment de la lutte finale. Voilà, on va pouvoir continuer à se battre. J'en profite pour vous dire, mon cher Mathieu, que comme les chats ont 9 vies, contrairement à ce que vous racontiez, elle avait raison, notre amie.
Comment ça, elle avait raison?
Oui,
Clémentine avait raison. C'est la régie qui l'a soufflé, que les chats n'avaient pas 9 vies, mais 7 vies.
Personne n'est au courant que la régie vous a soufflé quoi que ce soit.
Si.
Comment, à l'antenne, on n'entend pas la régie? Vous avez la preuve que la régie vous a soufflé quelque chose? J'ai été piégé.
C'est
par la régie,
honteux,
peut-être.
Et
vous arrangerez avec,
oui,
en fin de mois.
Effectivement.
Mais, pour le moment, les chats ont toujours eu 9 vies. Voilà. Comme les sorcières. Donc, vous partez avec un point de moins.
Bande d'enflure.
Europe 1. historiquement vôtre.
Tu vas voir ton point.
C'est la lutte finale, vous allez voir. Non mais ça saigne un peu. Hein. Une citation spécialement pour vous, Mathieu. Qui a dit « Quand je dis que ma richesse est intérieure, je veux dire que mon argent est dans un coffre ?» C'est Gueluc, Desproges ou Bernard-Henri Lévy ?
Alors c'est pas Bernard-Henri Lévy, parce que s'il avait cet humour, ça se saurait.
Quand je dis que ma richesse est intérieure, je veux dire que mon argent est dans un coffre.
Ben, j'admire beaucoup Desproges, mais comme Gueluc est vivant et en plus je le connais, je vais dire que c'est Gueluc.
Bonne réponse, c'est le papa du chat. Gueluc a dit aussi, en Belgique, on n'a peut-être pas beaucoup de champions du monde, mais dans le monde, ils n'ont pas autant de champions de Belgique que nous. Donc voilà. David.
Et voilà, un point.
Non,
Henri,
zéro.
Ils l'ont bien
zéro.
Noté.
Zéro. Non, non, zéro.
Mais zéro point, mais comment? Et donc, bah, je participe à la question finale.
Un.
Vous êtes, mais...
Non, non, même si vous gagnez, vous n'avez pas votre point.
C'est, ça. Okay. C'est dangereux de faire ça à un moment de renouvellement des contrats. Enfin, ça, c'est courageux de la part de nos amis techniciens.
David, une citation spécialement pour vous. Ouais. Qui a dit « J'étais déjà misogyne, je deviens misanthrope. » Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Gainsbourg, Guitry ou Bernard-Henri Lévy? Running gag.
Running gag. Excellent running.
Donc Bernard-Henri Lévy, non. Guitry. Et l'autre, c'est qui?
Gainsbourg, Serge Gainsbourg.
Gainsbourg. Moi, j'irais que c'est Guitry.
Oh non, c'était le piège, je pense. Ouais. Ouais.
Gainsbourg. Parce que si ça avait été Guitry, vous l'auriez connu, cette citation. Parce qu'on connaît toutes les citations de Guitry misogyne. Gainsbourg a dit aussi, on aime une femme pour ce qu'elle n'est pas. Et on la quitte pour ce qu'elle est.
Ouais, c'est pas le meilleur Gainsbourg. Hein.
Non, ouais. Olivier Poul, c'est à vous. Une citation spécialement pour vous. Qui a dit, comme la tartine, l'ivrogne tombe toujours du côté qui est complètement beurré.
Bah, faites-moi des propositions, parce que là, comme ça...
Je vous laisse d'abord réfléchir. Je répète, comme la tartine, l'ivrogne tombe toujours du côté qui est complètement beurré. Frédéric Dard, le professeur Choron ou Ariel Dombal?
Running twisté.
Ouais. Mais... enlever Ariel. Donc Frédéric Dard ou le professeur Choron. Moi j'aimais bien le professeur Choron.
Quand t'aimais pas Frédéric Dard.
Si, Antonio. Son Antonio, bien sûr que j'ai lu des son Antonio aussi. Allez, je vais penser au professeur Choron, je sais pas pourquoi.
Vraiment?
Ouais. Sûr? Mais oui, il est sûr. Il est très sûr.
Oui, le professeur Choron.
Il est sûr? Regardez, il a l'air très sûr. J'ai jamais vu un bel aussi sûr. Merde.
Choron a dit aussi.
Vous auriez pas essayé de me faire trébucher comme me faire tomber côté beurré, non?
Il a dit aussi, c'est terrible d'allonger la vie en prolongeant seulement la vieillesse.
Oh oui. C'est vrai,
c'était
c'est
plein de bonnes philosophies. Ouais. Alors, la question qui départage, alors je me tourne vers la... Ah ben non, c'est vous qui gagnez, Olivier, puisqu'on a éliminé Mathieu.
C'est scandaleux. Vous-même, Olivier, vous pouvez le dire,
presque
c'est scandaleux.
Presque gêné de cette
Évidemment,
victoire.
C'est une
Mais
victoire.
J'apprends quand même.
Je reconnais là votre fair play.
Donc, je crois que vous êtes à égalité.
Comment
maintenant.
Ça
Non, il y a
Ah, vous avez toujours une victoire d'avance.
Je vous en prie, ne dites pas n'importe quoi. Non, nos auditeurs,
on était relégués à
nos auditeurs
de longueur,
font attention à ça et on ne peut pas dire n'importe quoi sur le coup.
Bah non, vous dites pas n'importe quoi vous-même.
Historiquement, votre spéciale superstition, c'est fini. L'occasion ou jamais en ce vendredi 13 de révéler qui dans l'équipe est le plus superstitieux, messieurs. C'est à vous.
Non, je sais pas vous, moi.
Si,
pas trop.
Si, moi, je
suis sûr que toi, oui.
Si j'ouvre et je ferme les parapluies, je touche du bois, des trucs comme ça. Mais tout en me méprisant moi-même de
moi
le faire.
Aussi, exactement
mais
pareil,
je me dis, bon, on sait jamais, ça coûte pas grand chose.
Et donc, qui va jouer au loto en ce vendredi 13?
Non, je joue pas au loto. Vous jouez au loto?
Non, je joue pas au loto. On pourrait
se faire une petite grille ensemble.
C'est vrai, ça.
Et comme ça, si on n'est pas là lundi, les gens sauront qu'on a gagné.
Exactement.
Si vous entendez des disques,
vous gagnez au loto, il a arrêté de travailler.
Bon, regardez combien. Stéphane, il a déjà gagné au loto, il a pas arrêté de travailler pour autant. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve lundi, Stéphane, et vous connaissez le programme.
Oui, c'est pas moi.
Mais alors, c'est qui?
C'est ce que se sont dit les trois dames qu'on réunit. Leur nom prête à confusion. Hein.
Ah.
Tsu-si, l'impératrice.
D'Autriche.
Une impératrice. Non, de Chine. Parce qu'on l'écrit Six-si.
Ah oui, ça dit Tsu-si.
Simone Veil.
Ah, je connais.
Pas celle qui a défendu l'IVG, hein, mais la philosophe.
Ah, et moi je vous raconte la blonde Lolo Ferrari.
Ah oui, qui présente Punchline.
Alors non, justement Stéphane, là il y a confusion. Elle était un peu moins chic, ceci dit. Je vous raconte l'autre Ferrari, lundi, juste avant l'émission de Laurence Ferrari. D'ici là, bon week-end mes amis.
À lundi.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.